Vous êtes dans l'open mic jusqu'à 11h30. Par la suite, ce sera Marceau le midi. Pascal CV viendra se joindre à nous. Denis Gravel s'amène avec Audrey Pinchot et Véronique Bergeron à partir de 14h jusqu'à 18h. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir, 18h, avec nul autre que Jocelyne Cazin.
Oh!
Hein? Qui est auteur, qui est une ancienne journaliste, une femme qu'on a connue dans l'univers télévisuel pendant des décennies. Donc, elle sera avec moi à partir de 18h. C'est à ne pas manquer, bien hâte de lui jaser. On vous parlait de ce fameux Wade Wilson qui a été condamné à la peine de mort pour avoir tué deux femmes en 2019. Et le gars est devenu une véritable sensation sur les réseaux sociaux, entre autres sur le TikTok, là,
oui.
Le TikTok qu'on vous parle régulièrement. Et on se posait des questions à savoir, mais pourquoi des jeunes femmes tombent en amour avec ce genre d'individu-là. On vous le décrit physiquement, malgré le fait que c'est pas si important que ça. Un genre de 6 et 5, un beau sourire, un gars tatoué d'un côté du visage avec le visage d'un squelette et de l'autre côté, un signe nazi avec peut-être, si je me trompe pas, des faux points de suture à côté de la bouche.
Ah, mais tu sais, il y a la gueule là, du bad boy, là, tu comprends, mystérieux. Puis je veux dire, on fait des montages de lui qui amènent cette impression-là aussi sur les réseaux sociaux. Et il y a des killer groupies qu'on appelle.
Les killer groupies!
Des killer groupies qui trippent bien raide, qui vont même jusqu'à écrire au juge pour que le juge soit clément dans sa peine. On dit qu'il y a eu un passé difficile. On envoie des lettres à Wade Wilson, des photos explicites, des demandes en mariage. C'est complètement capoté de te dire... En fait, dans ma tête, ces jeunes femmes-là sont pas saines d'esprit. Il faut vraiment pas que tu réalises pour t'embarquer là-dedans. Mais on appelle ça au moins des killer groupies. Et ce phénomène-là s'appellerait libristophilie. Donc, le fait d'avoir une attirance morbide envers les criminels.
Ça nous prenait un point de vue professionnel. On a eu le goût de jaser avec Dr. Gilles Chamberlain, qui est psychiatre. Monsieur Chamberlain, bonjour!
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce phénomène-là, est-ce que vous l'avez déjà étudié? Est-ce que vous avez déjà reçu des gens comme ça qui sont dans votre bureau en disant « Docteur Chamberlain, moi, je suis en amour avec des psychopathes? »
En fait, ces gens-là ne consultent pas. C'est un peu ça le problème. Ils ne sentent pas qu'ils ont un problème à régler, donc ils ne sentent pas le besoin de consulter, fait qu'on les voit pas vraiment. Par contre, c'est un phénomène qu'on peut voir assez régulièrement. Là, ça fait les manchettes, parce que c'est comme quelqu'un qui est plus dans les réseaux sociaux en ce moment.
Ouais.
Mais c'est un phénomène qui est connu. Il y a beaucoup de gens qui sont en attente de la peine de mort, donc ils n'ont aucune possibilité de sortir rien, puis ces gens-là reçoivent même des demandes en mariage. Il y en a qui se marient. C'est un phénomène qui est quand même particulier. Je l'avais vu, moi, personnellement, avec Magnota, qui était même homosexuel dans la façon dont il se présentait. Et il y avait des jeunes femmes qui faisaient la ligne au procès pour être les premières en avant. Il y avait son fan club. C'est particulier. Ça peut être difficile à expliquer, mais une des explications qu'on a, c'est que ces femmes-là, premièrement, il y a une espèce de sentiment de puissance qui se dégage de ces gens-là, des gens qui ont déjà tué, des bad boys, et c'est comme si ces gens-là allaient nous protéger si on était en relation avec eux, ce qui est totalement faux, parce que la violence de ces personnes-là peut facilement et plus facilement se retourner contre le conjoint, la conjointe, que contre n'importe qui. Le risque est beaucoup plus grand pour ces femmes-là. L'autre chose, c'est que ces femmes-là ont tendance à penser qu'elles vont sauver ces personnes-là, que c'est parce que ces personnes-là n'ont pas été assez aimées qui ont tourné comme ça, et elles vont tellement les aimer qu'elles vont les changer.
La mère Teresa.
C'est un peu ça. Et c'est une illusion complète de penser qu'on peut changer ces personnes-là. Oui, ces personnes-là vont parfois attirer beaucoup de sympathie quand on connaît leur histoire, quand on se dit « oui, c'est pas de sa faute, il a vécu ça, s'il y avait eu l'amour qu'il aurait mérité, il aurait tourné autrement ». Mais malheureusement, c'est plus une question d'amour. Ces gens-là, ils ont beau recevoir l'amour qu'ils voudront, au stade où ils sont rendus, ça prend plus que ça pour les changer.
Docteur Chamberlain, dans le cas de Wade Wilson, c'est un gars qui est extrêmement violent. Entre autres, je lisais pour une de ses victimes, là, il l'a écrasé pas juste une fois, il a passé dessus au moins 10 fois avec son véhicule pour être sûr et certain que la femme qui passait sous son véhicule allait décéder. Cet individu-là semble être sans remords. Est-ce qu'en psychiatrie, ça existe, le mot psychopathie? Est-ce que c'est une maladie en psychiatrie?
En fait, non. Le terme psychopathie est pas vraiment. Il y a toutes sortes de définitions. C'est pas précisément défini. Ce qu'on a en psychiatrie, le diagnostic, c'est des antisociaux. Une personnalité antisociale, c'est très bien défini, et c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas en société. Donc, quelqu'un pour qui les règles de la société n'existent pas. Elles existent parce qu'il veut pas se faire prendre, là. Mais il n'y a aucune conscience sociale et les autres autour de lui sont comme des objets qu'on peut utiliser. Évidemment, il y a les lois, donc il va pas quelqu'un qui est pas intelligent, là, il va faire attention pour respecter les lois. Mais les autres personnes, c'est comme si c'était des objets dont on peut se servir. Donc, il y a aucune empathie, il y a aucune culpabilité après avoir fait quelque chose. Évidemment, il y a divers degrés pour être antisocial. On peut avoir juste des traits antisociaux, mais à partir du moment où on a un trouble de personnalité antisociale, la personnalité se change à peu près pas. Ces gens-là ne consultent pas non plus. Donc, c'est des gens qui peuvent être extrêmement dangereux et pas fiables. À ne pas confondre avec les gens asociales. Asociales, c'est des gens qui n'aiment pas être en société. C'est soit des gens qui sont gênés ou un peu ermites, qui préfèrent être seuls qu'avec d'autres. Donc, asocial, c'est ne pas aimer être en société. Et antisocial, c'est ne pas respecter les autres en société.
C'est quand même pas pire, Dr. Chamberlain, de le préciser, parce que je me disais que dans mon entourage, j'avais une couple d'antisociales. Je commence à être inquiète.
faut pas les appeler comme ça. Et il y a une autre composante qui peut s'ajouter aussi, qui s'ajoute, d'après moi, dans l'individu dont on parle, c'est toutes les perversions. La perversion, là, on parle de libido, on parle de ce qui va exciter un individu. Et quand on tombe dans le sadisme, quand les gens sont excités par la souffrance qu'ils vont imposer à quelqu'un d'autre, par l'humiliation qu'ils vont générer chez quelqu'un d'autre, là, ça devient dangereux. Encore là, il y a différents degrés. Mais ceux que j'ai vus, malheureusement, il y a une espèce de tolérance qui se développe, il leur en faut toujours un peu plus, et ça peut finir par faire des tueurs en série qui vont vraiment sadiser, faire souffrir les victimes avant de les tuer, et qui ne vont les tuer que pour le plaisir de les voir souffrir. Et là, ça devient extrêmement dangereux. Fait que oui, on peut être antisocial, mais si en plus de ça, on a une composante sadique, ça devient extrêmement dangereux.
Puis c'est quoi la différence entre un psychopathe, autrement appelé antisocial, dont on parlait, puis un sociopathe?
Encore là, il n'y a pas vraiment de différence. Sociopathe, c'est quelqu'un qui a la difficulté à fonctionner en société. C'est un terme plus large qui implique pas nécessairement que les gens vont être dangereux. Par exemple, quelqu'un qui est alcoolique. On donnait ça comme exemple il y a longtemps, qui a de la difficulté à fonctionner, à s'intégrer dans la société à cause d'un problème. Bien, il y a, c'est de la sociopathie, c'est de la difficulté à être en société, mais à cause d'un autre problème. C'est pas nécessairement des gens qui vont être des psychopathes. Maintenant, les psychopathes, la façon dont c'est défini, je ne sais pas si précis que ça parce qu'il y a comme plusieurs définitions, mais c'est un terme qui est quand même très utilisé. Il y a des échelles pour mesurer le degré de psychopathie et je dirais que maintenant, on l'utilise pour quelqu'un qui serait à la fois antisocial et qui a une composante où il prend plaisir à voir les autres souffrir. Là, on aurait vraiment un psychopathe.
Est-ce que ça se guérit?
Malheureusement, non. On est dans le domaine de la personnalité. C'est comme si vous me demandiez, est-ce qu'on peut guérir quelqu'un qui est gêné? Si on prend une personnalité de quelqu'un qui est gêné, on peut atténuer ça, mais la personne va toujours rester avec sa personnalité dans une situation imprévue, mais son réflexe, quelqu'un qui est gêné, ça va être de reculer. Fait que oui, on peut atténuer les traits de personnalité, mais encore, faut-il que la personne vienne consulter et qu'elle veuille changer, veuille comprendre pourquoi elle est comme ça, et qu'il y a un désir réel de travailler pour ne plus être comme ça. Et malheureusement, les antisociaux consultent à peu près jamais pour ça. Parce que dans leur tête, à eux, c'est pas eux le problème. Pourquoi il y aurait un problème si la société est à leur service? Ils n'ont aucune culpabilité à faire ce qu'ils font. Donc, ces gens-là consultent rarement.
Je fais un gros raccourci intellectuel, mais est-ce que les criminels sont souvent psychopathes de base?
Je dirais pas psychopathe, parce que psychopathe, habituellement, c'est comme une coche de plus qu'antisocial. Mais antisociaux, souvent. Il y a des criminels d'occasion. Si vous laissez traîner un portefeuille, quelqu'un peut savoir à qui le portefeuille appartient, va le prendre quand même. Il y en a qui vont aller directement le voler dans votre poche. Il y a des criminels qui vont se faire prendre plus par occasion, des fraudes, des choses comme ça. Mais quelqu'un qui va aller chercher directement le portefeuille dans votre poche sans se soucier des problèmes que ça va vous causer, on commence à parler de quelqu'un antisocial.
Dans les séries hollywoodiennes, Dr. Chamberlain, j'imagine que vous écoutez des films et des séries tout comme nous, là. Mm-hmm. On présente souvent ces individus-là comme des gens extrêmement intelligents. Est-ce que la science s'est réellement penchée sur le quotient intellectuel de ces criminels-là?
Écoutez, c'est un biais de sélection. Par définition, un tueur en série va être un peu plus intelligent. parce qu'il a réussi à tuer plus qu'une personne sans se faire prendre. il y a probablement plein de tueurs en série potentiels qui en ont tué juste un, donc c'est pas des tueurs en série. Donc effectivement, si quelqu'un réussit à fonctionner en étant antisocial, sans trop se faire prendre, ou en se faisant prendre après un certain temps, veut pas, faut qu'il y ait une intelligence qui est assez présente pour réussir à avoir déjoué les systèmes. Mais ça n'a aucun rapport avec l'intelligence dans le fond. Un antisocial moins intelligent va se faire prendre tout de suite, puis va faire moins de dégâts. Un antisocial plus organisé peut monter des fraudes, peut amener d'autres personnes à agir à sa place, peut faire plein de choses sans se faire prendre.
Je veux qu'on reste dans la catégorie des films et séries, puis revenir un peu à l'hybristophilie. C'est-tu le bon terme en passant? J'ai vu ça sur Internet, mais il ne faut pas craindre tout ce qu'on voit, là.
Non, oui, c'est le bon terme.
OK, bon.
C'est très, très rare, très rarement utilisé.
Bon, bien, parfait. J'essaie d'avoir l'air intelligente ce matin, Dr. Chamberlain. Je veux revenir aux films et séries parce que je me demande si ces films-là, ces séries-là ont un rôle à jouer psychologiquement dans la réaction des femmes, justement, qui ont un intérêt envers... Ben, l'homme, justement, qui a peut-être des traits psychopathes antisociales ou les tueurs dans notre monde réel, là, on dirait qu'on aime leur apporter un mystère.
Oui, peut-être un peu, parce que aussi, justement, pour pouvoir faire une série, pour pouvoir avoir un personnage qu'on va suivre, il faut le rendre quand même intéressant. Et c'est jamais comme dans la réalité. La série qui a un peu parti de tout ça, on peut penser à Dexter. Dexter, un tueur en série, qui ne peut pas s'empêcher de tuer. On pourra rarement... le personnage qui a fait dans le film ne peut pas exister. Il a fait une espèce de super-héros tueur en série, dans le sens qu'il ne va tuer que des méchants sans tuer d'autres personnes. Le problème avec, justement, quelqu'un qui a un tueur en série comme ça, qu'on le voit bien dans le lecture, c'est quelqu'un qui va prendre plaisir à tuer, qui va prendre plaisir à faire souffrir les autres. Donc, ça va être extrêmement difficile à ce moment-là de ne trouver que des cas où il pourrait réussir à ne tuer que des personnes néfastes pour la société ou des gens que la justice n'a pas été rendue. Ça se peut pas. Donc, ces gens-là ont un potentiel agressif qui va se manifester aussi ailleurs. Si on aime voir souffrir les autres, ça ne se manifestera pas uniquement quand on agit dans un geste d'éclat une fois par année. Ça va se manifester ailleurs aussi dans la société. Donc, le personnage lui-même est à peu près impossible.
Est-ce qu'on a des statistiques concernant les antisociales ou les psychopathes dans notre société? Est-ce que vous avez déjà entendu un genre de 2-3%? Est-ce que ça pouvait encore ressembler à ça?
Oui, tout à fait. Ça dépend de la définition qu'on va donner. On parle plutôt de... Parce qu'on peut avoir des traits sans avoir la personnalité comme telle. Comme on est tous un peu gênés dans certaines circonstances, sans dire qu'on a un trouble de personnalité évident qui fait que notre gêne nous empêche de fonctionner, nous empêche de postuler pour un emploi. C'est un peu la même chose pour la personnalité antisociale. Il y a des gens qui ont des traits. À partir du moment où on a le trouble de personnalité antisociale, qu'on peut pas s'empêcher d'agir comme ça, ça tourne autour de 1 à 2 % de la population.
Est-ce qu'un antisocial peut réussir à évoluer en société tout en mettant son masque en agissant par mimétisme, c'est-à-dire lorsqu'un enfant décède, il est capable de pleurer même s'il ressent absolument rien parce qu'il sait que pleurer dans ces circonstances-là, c'est bien vu auprès des autres?
Absolument. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne peuvent pas avoir de la peine, parce que s'ils ont des pertes eux-mêmes, s'ils ont des deuils à faire, ils vont avoir de la peine. Mais d'utiliser quelqu'un, ça ne les dérange pas du tout. Donc, ils peuvent aussi avoir de la peine. Et effectivement, c'est des gens que plus ils sont intelligents, plus ils vont pouvoir justement fonctionner et manipuler les autres. Il y a même des études qui montrent que malheureusement, les antisociaux à qui on fait de la thérapie peuvent devenir de meilleurs antisociaux parce qu'ils comprennent vraiment ce que les autres attendent d'eux. C'est ça. Mieux manipuler ce que les autres attendent d'eux, c'est quoi de la compassion, c'est quoi de la culpabilité, comment l'exprimer. Fait qu'effectivement, il faut faire attention parce que si on fait de la thérapie, ils peuvent devenir des meilleurs antisociaux.
Puis mettons, là, Dr. Chamberlain, là, comment on fait pour repérer ces gens-là?
Encore là, c'est très, très difficile parce que si on parle d'un vrai antisocial, là, ces gens-là n'ont aucune culpabilité à mentir, par exemple. Donc, si on prend les détecteurs de mensonges, c'est basé uniquement sur le stress qu'on a à savoir qu'on ment. Donc, il y a comme 5 paramètres qui sont mesurés. On pose toutes sortes de questions et là, on voit quand la personne ment ou pas. Et après ça, on pose les questions là, sur lesquelles on va avoir des vraies réponses. Mais un antisocial n'a aucun stress à mentir. Donc, il ne sera pas plus stressé. Donc, les détecteurs de mensonges ne marchent pas. Donc, c'est très facile de se faire berner. Il y a des gens qui vont s'en vouloir de s'être fait berner, d'avoir prêté de l'argent, investi de l'argent, accepté des choses. les vrais antisociaux sont excellents. Dans les entrevues, c'est très facile d'embaucher quelqu'un qui vient nous dire des choses qui sont pas vraies, parce que ces gens-là, effectivement, peuvent mentir sans sentir aucun stress.
Est-ce qu'ils sont conscients de leur condition, c'est-à-dire que les émotions, ils en ont très peu, ils ont une facilité à manipuler les gens qui sont autour d'eux? Est-ce qu'ils sont conscients de ça ou c'est comme l'inconscient, puis ils sont tout simplement juste leur propre personnalité, puis ils évoluent dans notre société?
Sont tout à fait conscients. Sont tout à fait conscients, et pour se donner meilleure conscience, ils vont avoir toutes sortes de raisonnements du genre « s'il est assez stupide pour croire ce que je viens de lui dire, ben il mérite de se faire voler de l'argent. » Ou c'est ce genre de raisonnement-là que la personne va avoir. Ou encore, ben dans notre société, c'est celui qui est le plus brillant des deux qui va frauder l'autre, donc ça va être moi. Fait que c'est une façon d'exprimer, de tourner ça à l'envers pour en faire une qualité.
Est-ce que la science est penchée sur, les statistiques concernant les antisociales, les psychopathes, les sociopathes? Est-ce que c'est genré, ça, ces déterminations-là? Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont comme ça?
Oui, un peu plus. Il y a définitivement plus d'hommes pour deux raisons. Premièrement, les critères sont plus basés sur l'agir. Donc, à partir du moment où quelqu'un agit, sa colère, où quelqu'un agit, il y a plus de chances de rencontrer les critères et qu'on le définisse. Mmh. Donc, les hommes sont plus portés à agir leur colère, ça, c'est clair. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus d'hommes antisociaux, c'est clair. Par contre, l'équivalent chez les femmes, ça serait des femmes avec des personnalités limites ou borderline, qui sont moins dangereuses. Et ces personnes-là
mais
vont plus souffrir eux-mêmes que faire souffrir les autres. Mais il y a une forme de colère qui peut se manifester autrement.
Est-ce qu'ils peuvent avoir une vie normale, entre guillemets, avoir une conjointe, un conjoint, avoir des enfants, puis que tout l'aspect familial, ça puisse bien aller?
Absolument, absolument, absolument. Un exemple que je vous donnerais, c'est le procès actuellement en France de l'individu qui a anesthésié sa conjointe, puis qui l'a fait violer par plein d'hommes. Ce que je disais sur ça, c'est que oui, ça prend une perversion. Ça dit que lui-même, quand il faisait ses annonces sur Internet, il disait « Êtes-vous en mode viol comme moi? » Donc, c'est clair que c'est un sadique qui prend plaisir à forcer des gens à les humilier, tout ça. Mais on a beau avoir une perversion, il y a plus de gens qu'on pense qui ont des fantasmes sadiques ou pédophiliques ou tout ça. L'important, c'est de pas l'agir puis de pas nuire à personne. Donc, à partir du moment où on l'agit, on nuit à quelqu'un d'autre, on utilise un autre être humain pour assouvir nos besoins, on est aussi antisocial. Et c'est clair que ce gars-là était antisocial. C'est clair que ce gars-là passait énormément de temps sur les réseaux sociaux à monter ses affaires, à communiquer avec d'autres. Et pendant tout ce temps-là, il était capable de donner le change pour avoir une vie relativement normale avec une conjointe, des enfants, un travail. Et ça lui servait presque de couverture. Un antisocial va tout faire pour pas se faire prendre. Un antisocial n'a aucun intérêt à se faire prendre. Donc, il est capable de mener deux vies en parallèle s'il est moindrement intelligent.
Puis mettons là que quelqu'un vous écoute dans son char en ce moment puis il dit « Il me semble que je reconnais certains traits de personnalité, ça me fait un peu capoter. Tu peux-tu demander à consulter pour être diagnostiqué psychopathe? »
Bon, écoutez, si quelqu'un dit ça, il l'est déjà moins.
Dans la mesure, bon, génial, c'est une bonne nouvelle.
À partir du moment où quelqu'un se remet un peu en question, est-ce que je fais comme ça? Est-ce que c'est déjà bon signe? Il l'est probablement pas trop. Parce que les vrais antisociaux vont se dire, oui, je suis le même, puis c'est quoi le problème? Tout le monde devrait être comme ça, ou tant pis pour les autres s'ils le sont pas. Les gens se remettront pas en question. Ceux habituellement qui viennent nous voir en disant, coudon, je suis borderline, trois quarts du temps, ils ne sont pas du tout, par exemple.
Docteur Chamberlain, est-ce que les psychiatres ou encore les docteurs en psychologie, quand vous avez des gens comme ça à l'intérieur de votre cabinet qui se confient par de leur désir de perversion, est-ce que vous, parce que là, vous êtes limité par le secret professionnel, qu'est-ce qui fait en sorte que vous pouvez lever ce secret professionnel-là quand vous avez ce type d'individu-là qui se confie à vous avec des choses absolument atroces?
Oui. C'est très, très strict, notre obligation de confidentialité. C'est pas un droit qu'on peut invoquer. On a une obligation qui est très stricte et qui est balisée. Ça pourrait surprendre les gens de la population à quel point c'est strict. Mais il faut comprendre que si c'était pas strict à ce point-là, les gens ne nous le confieraient pas. Si le moindrement, ils savaient qu'on va aller en parler, on va aller les dénoncer, on n'a aucun moyen de pouvoir traiter ces gens-là, de pouvoir faire de la prévention. Donc, les critères que la loi a mis, on est On peut libérer de l'information seulement si on est sûr qu'il y a un danger imminent, donc qui va se produire là, sur une victime identifiable et un danger de mort ou de blessure grave. Et c'est le seul cas où on peut libérer de l'information.
Fait que quelqu'un vous dit « j'ai tué », vous ne pouvez pas dénoncer.
Non. On ne peut pas dénoncer à moins que ce soit un tueur en série qui prépare d'autres choses, puis qu'on est capable de dire que le danger est imminent, donc bientôt, la victime identifiable, et que ce soit un risque de blessure grave. Et ça peut paraître très, très restrictif dans notre possibilité, mais il faut comprendre qu'on est mieux que ces gens-là viennent nous voir, nous le confient en sachant qu'on n'en parlera pas, qu'on essaie de faire quelque chose, que ces gens-là restent avec ça, puis qu'ils n'en parlent jamais. C'est pour ça que c'est difficile de savoir où mettre la ligne. La loi l'a mis, ça prend des circonstances très précises. Je vous donne un exemple d'un cas que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'avait dit « Mon patron, je l'haïs, mais j'y ferai rien. Par contre, si le congédie, je vais le tuer. » Fait à quel point c'est vrai, on peut jamais le savoir. Mais il n'y a pas de danger imminent. Mais si jamais j'apprends que son patron veut le congédier, là, je vais me poser la question. Et là, la loi permet de libérer l'information à la victime potentielle et aux agents de la paix pour prévenir ça.
Docteur Jean-Berlin, moi, je suis animateur de radio, puis il y a très peu de choses qui m'empêchent de dormir. Parfois, je peux entendre parler d'histoires tristes et tout ça, mais le soir, le ménage se fait dans ma tête, puis je suis capable de bien dormir. Quand vous recevez ces gens-là dans votre cabinet, vous entendez leur histoire. Parfois, ça peut être des cauchemars aussi qui vous racontent. Puis là, vous êtes un être humain. Est-ce que vous ramenez de la job à la maison dans votre tête des fois?
Toujours, c'est sûr. Parce que faut tolérer un certain niveau de stress. Par exemple, ne serait-ce que les gens qui ont des idées suicidaires, il y a 1% des gens qui vont avoir des idées suicidaires qui vont passer à l'acte. C'est pas beaucoup, 1%. On peut pas détenir de force 100% de ces gens-là. On peut pas faire de la prévention non plus. La loi permet pas qu'on va détenir quelqu'un qui est à risque. Donc, oui, des gens vont nous parler de leurs idées suicidaires, vont nous dire qu'ils sont suicidaires, mais qu'ils passeront pas à l'acte en ce moment, qui ont ça. Dans notre tête, on se dit, bon, c'est correct. Le risque n'est pas trop grand, mais si jamais il prend de l'alcool ce soir, le risque va augmenter. Fait que c'est évident qu'on n'appellera pas l'ambulance pour les faire interner comme ça, c'est facilement. Là. Ça en prend beaucoup. Mais des fois, on revient en se disant, j'ai-tu bien fait? Est-ce que j'aurais dû être plus proactif? Mais quand on est plus proactif, on brime des libertés, on contraint des individus à faire des choses, ce qu'on n'aime pas faire, puis souvent, ce que les individus vont refuser de collaborer. Fait que, oui, il y a des bouts qu'on revient un peu à la maison en se disant, est-ce que j'aurais dû en faire plus? Ça, c'est clair.
Là, vous devez trouver ça bizarre avec mes questions. Là. C'est vous qui êtes à la chaise pour une fois. Là. Mais est-ce que vous êtes plus méfiant envers la société en raison du fait que vous rencontrez des gens qui ont certaines problématiques?
Non, je pense pas. C'est sûr qu'on a un biais de sélection là, à force de voir des gens comme ça. Mais je pense pas là. C'est comme n'importe quelle branche de médecine. Là, je pense pas que les chirurgiens pensent qu'il y a plus d'appendicite parce qu'il y en a tous les jours. On est quand même capable de faire la différence.
D'accord.
Oui. Par contre, on sait que ça existe. On est moins naïf parce qu'il y a des gens qui se promènent dans la vie en disant mais ces affaires-là n'existent pas, c'est juste dans les journaux. Mais on sait que ça existe. Oui.
On
peut en croiser.
On parle en passant avec Gilles Chamberlain qui est psychiatre. Est-ce que vous avez le réflexe de vous auto-diagnostiquer? On dirait que moi, je ferais votre job, là, je passerais mes journées à me demander si je suis folle. C'est vrai.
Ça, c'est le propre à tous ceux qui vont étudier en médecine dans les branches de la santé. Là, quand on arrive, mettons, dans les maladies respiratoires, on va tous se diagnostiquer ça à un moment donné. Là. Fait qu'en psychiatrie, c'est encore plus facile parce que les critères sont un peu flous. Là. On n'a pas comme des marqueurs, là, comme la pression, des choses comme ça. Puis faut voir aussi que la personnalité d'un individu va changer en fonction de est-ce qu'il est plus déprimé, il est plus de bonne humeur, est-ce qu'il a consommé de l'alcool. Fait que oui, on peut se retrouver dans plein de choses, ça, c'est sûr.
Ouais, puis dans le cas des docteurs en psychologie, je ne sais pas si c'est le cas pour ce qui est des psychiatres, mais ce qu'on m'avait raconté, c'est que régulièrement, ces gens-là doivent se confier à d'autres collègues.
Pour enlever le poids.
Oui, effectivement. Des professionnels de la santé dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, qui eux aussi consultent, c'est pas rare. Il n'y a pas de honte à consulter, au contraire. Consulter, c'est comme s'entraîner. Des fois, on en a besoin parce qu'on a besoin de soutien. Ça devient comme plus de physiothérapie là, pour récupérer de quelque chose. Mais consulter pour travailler sur soi, c'est comme aller s'entraîner. Tout le monde peut en bénéficier.
Docteur Jean-Berlin, votre thérapie est terminée. Vous pouvez partir en paix. Vous reviendrez quand vous en aurez de besoin. Merci beaucoup, Dr. Chamberlain.
Merci, au revoir.
Au revoir. L'excellent Dr. Gilles Chamberlain, qui est psychiatre. On parlait des psychopathes, des sociopathes. On parlait des antisociales, en référence à Wade Wilson, qui est un cas sur les réseaux sociaux, là, bien honnêtement. C'est quelqu'un qui ne semble pas avoir beaucoup d'émotions, qui a tué deux femmes de sang-froid. Je vous racontais tout à l'heure que, pour être sûr et certain qu'une des deux femmes soit décédée, il aurait reculé et avancé sur elle en voiture entre 10 et 20 fois, pour être sûr et certain qu'il l'achevait. Et ce gars-là s'est ramassé en cour, puis il a été déclaré coupable de deux meurtres, et il va passer...
C'est peine de mort.
C'est peine de mort, donc il va passer le reste de sa vie en prison. Mais il y a des femmes qui ont pris connaissance de qui était Wade Wilson. C'est pas Deadpool, même s'ils ont le même nom. Là.
Il appelle le Deadpool Killer,
ça ouais. Mais il y a des femmes qui ont pris connaissance de cet individu-là, puis qui l'ont mis sur les réseaux sociaux, puis sont devenues fanatiques, folles de cet individu-là, tellement qu'on demande aux autorités de le laisser partir parce que c'est peut-être parce qu'il a mal été aimé quand il était jeune. Ces femmes-là semblent avoir
un surplus d'empathie, en fait.
De l'empathie envers cet individu-là, alors que c'est visiblement quelqu'un qui a très peu d'émotions.
Ouais.
Fait qu'on se posait la question.
Il y a comme une différence, par exemple, entre être empathique à l'histoire de quelqu'un, prendre conscience de ce qu'il a fait exactement. Puis tu sais, quand t'es rendu à contacter le juge, on a un texto qui est entré tantôt qui nous disait « Je me suis pognée sur Internet avec une fille qui avait un groupe carrément qui s'appelait Save Wade Wilson. » Il dit, elle me disait que c'était le plus beau, le plus gentil, sans même le connaître réellement. Elle disait que c'était un coup monté par sa blonde qui était innocent, même s'il avait avoué les deux meurtres. Tu sais, il y a du monde qui sont débiles, par exemple.
Oui, puis les signes nazis qu'il y a dans sa face, là,
de
mémoire, c'est pas des bons signes à
non,
avoir.
Non, mais c'est ça, là. C'est parce que t'as pas des bonnes valeurs de base, généralement.
Tu sais, tes références, là, si tu tripes sur ce gars-là, tes références par rapport à l'histoire doivent être erronées quelque part.
Oui, oui. Mais quand t'es rendu à te le faire tatouer, là, c'est parce que c'est plus que d'avoir une pensée de temps en temps, c'est de l'assumer complètement.
On va te poser la question, que penses-tu des éclairages de Dr. Chamberlain concernant les psychopathes, les sociopathes, les antisociales?
Mais là, j'ai repéré du monde autour de moi, puis je suis effrayée. J'ai l'impression que c'est des traits qui sont faciles. Moi, chaque fois qu'on parle de ce jeune même, Yann, là, j'ai vraiment une grosse introspection de hey, si j'ai tel trait, ça veut-tu dire que je suis sujette à, on veut.
C'est sain de le faire, d'y réfléchir, mais toi, t'as tellement d'émotions qu'oublie ça.
Ouais,
là,
c'est ça, je suis pas psychopathe.
Mais des antisociales, j'en ai déjà rencontré. T'sais, est-ce que c'est des antisociales diagnostiquées médicalement? Je ne le sais pas. Moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas docteur en psychologie, mais j'ai déjà vu des gens qui correspondent exactement à ce que Dr. Chamberlain mentionne. C'est pour ça que j'avais des questions très précises.
Ouais.
T'sais, à savoir, ces gens-là sont-ils capables d'avoir une vie ordinaire, une vie familiale?
Tu fais quoi de ce monde-là? C'est
en fait,
fascinant.
Tu t'évites ces gens-là. Moi, j'ai toujours évité ces gens-là. J'ai le cas d'un, entre autres, que tu as probablement côtoyé dans ta vie, Audrey. Il ne travaille pas ici, soit dit en passant. Et ce gars-là était capable d'être le gars le plus formidable, mais d'être la pire merde de la planète, mais sans éprouver aucun remords. Faisait souffrir énormément de gens autour de lui et n'avait jamais aucun remords.
Mais ça, c'est
un
fascinant.
Un gars extrêmement brillant qui était capable de voir quelqu'un qui était en difficulté à côté de lui, mais ne ressentir absolument
rien. Ça faisait
rien,
pas un pli.
Même des fois, le torturer encore plus sur ce qu'il venait de vivre.
Mais ça, je pense que pour des gens qui sont super empathiques, super éponge à émotion, c'est dur de comprendre que c'est possible. Puis c'est là, puis écoute, sans excuser ces femmes-là, parce que je trouve ça épouvantable, mais c'est là que, ironiquement, j'ai de l'empathie pour ces femmes-là en me disant, bien, probablement que pour eux... Quelqu'un peut réellement changer, quelqu'un peut réellement travailler sur lui, quelqu'un peut réellement avoir une deuxième chance, tu sais. Sauf que là, c'est ça, là, il y a comme la gravité d'acte, là, quand t'as tué.
Ouais.
Pour moi, il n'y a pas tant de deuxième chance possible. C'est super personnel, là,
mais selon les
j'ai de la misère avec ça.
Selon les statistiques, c'est 3 personnes sur 100 qui pourraient correspondre à. Ça veut dire que sur 100 personnes que tu connais, il y en aurait 3.
Oui.
Puis c'est pas nécessairement des gens qui sont en prison, là.
Non,
des gens
non,
qui
mais
évoluent
ça,
autour de nous autres.
Là. Qui sont libres.
Ouais.
C'est très intéressant. Puis écoute, il y a une question moi, qui me traite encore en tête, puis j'ai pas osé la poser à Gilles Chamberlain parce que... Mais non, mais je me demande s'il faut que tu te sentes mal de triper ou d'admirer, tu sais, ce genre de personnes-là. J'ai vraiment... Quand je parlais du billet, là, des films, puis des séries, puis, tu sais, je parlais pour ma génération, mais on a été élevés avec ça, là, la télé, puis l'imaginaire, puis ces gars-là qu'on... qu'on mettait de l'avant, en fait, là, t'sais, par leur côté, justement, un peu badass puis mystérieux, puis qu'on excusait, parce que souvent, je veux dire, bon, il a donné l'exemple de Dexter, mais prends n'importe quelle série ou film, ces gars-là, je veux dire, par leur passé, on excuse leurs actions, là. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y a un biais cognitif, des fois.
OK. Je vais te ramener à des lectures de l'auteur Eckhart Tolle.
Okay. Okay,
je t'en ai déjà parlé, oui. D'Eckhart Tolle, je pense que je t'en parlais la semaine passée. Lui, il dit « Sors de ton corps, puis observe-toi, tel un individu bienveillant,
oui.
Puis regarde-toi aller, puis normalement, tu devrais être capable de répondre à tes questions. Pourquoi tu es comme ça? T'as-tu raison de t'en vouloir de faire ci? T'as-tu raison de t'en vouloir de faire ça? » Au lieu de rester toi, là, en disant « Regarde, pourquoi je trippe sur ce gars-là, ça n'a pas de bon sens? » Sors de toi, puis regarde-toi aller. Observe-toi. Puis Eckhart Tolle mentionne souvent ça
c'est
dans ses livres.
C'est tout un processus, ça,
c'est
par exemple.
C'est un processus. Puis il y en a, tu sais, qui se disent...
C'est pas ça vendredi soir.
Il y en a qui sont incapables de l'imaginer, mais tu sais, quelqu'un qui est tout le temps négatif envers lui-même. Tu le sais que t'es négatif, mais tu t'observes pas.
Ouais.
Puis dans quelles circonstances que t'es négative, que t'es négative tout le temps? Pourquoi tu réagis de même? Pourquoi t'as tout le temps le même maudit pattern? Tu sais, Eckhart Tolle, c'est pas un génie, là. C'est quelqu'un qui a écrit des livres. Moi, j'adore les livres d'Eckhart Tolle, puis ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Mais ces petites techniques-là de juste t'observer, là, puis de te dire un peu, là, pourquoi tu fais ça tout le temps? Pourquoi tu tombes tout le temps dans les mêmes patterns? Pourquoi tu te chiennes tout le temps avec la même personne, puis tu gardes cette personne-là dans ta vie? Puis sois bienveillant, conseille-toi toi-même. C'est ce qu'il dit, puis ça marche.
Il y a une affaire d'instinct là-dedans aussi, là. Mais non, c'était profond comme sujet, c'était bien trippant. Docteur Gilles Chamberlain, en passant, vous allez retrouver cette entrevue-là sur le blvd.fm.
Qu'est-ce qu'a dit Mel? Salut la gang, j'ai été aux prises. J'ai été prise en couple avec un pervers narcissique. Ouais, ça, c'est souvent les ex. Hein?
Non, mais attends, le pire, c'est que tu t'en rends compte souvent quand tu es sortie de là.
Oui, et dans son cas à elle, son pervers narcissique a été diagnostiqué antisocial. Elle a dû rester car elle avait un enfant avec lui. La chose qui a fait que j'ai pu partir, c'est quand il a voulu nous tuer, l'enfant et moi. Ils sont tellement manipulateurs, ça n'a pas de sens. En plus, je suis hypersensible et empathique. Ouch! Donc, Mel, elle a passé au cash, là.
Et mon Dieu, oui, puis ça, c'est pas une situation légère, on s'entend, là. Mais c'est vrai, par exemple, que des traits comme ça, aussi pointus, quand t'es dedans, Dr. Chamberlain a raison, là, la manipulation est tellement grande que souvent, tu t'en rends pas compte puis t'excuses certains comportements.
Chris qui dit « Salut, je me souviens d'avoir vu une étude qui avait recensé les métiers avec le plus de psychopathes et ça ressemblait à ça. Animateur de radio. avocat, chirurgien, chef d'entreprise, wow. Enquêteur, politicien. Ah oh, ouais.
Spécial, hein?
Noir, en même temps, ça me surprend pas.
Ben, moi non plus, ça me surprend pas particulièrement, sans généraliser, là.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui dit « J'écoute beaucoup de true crime, mais je crois que le but n'est pas de mettre le meurtrier sur un piédestal, mais plus en mémoire de la victime. » Ouais. Je pense que ça dépend comment c'est fait, par exemple.
Bref, c'est un super de bon sujet, l'entrevue avec Dr. Gilles Chamberlain sur les psychopathes, les antisociales et les sociopathes. Sociopathes sera disponible sur notre site Internet, blvd.fm, ou encore sur l'application. Avec l'application, ça se fait quand même assez vite, les amis. Téléchargez-moi ça maintenant, 10h59. On revient.
Ce segment d'émission, présenté par...